Radio Classique. Déjà le dernier de nos rendez-vous de la troisième saison de Grand Leader et pour clore en beauté, un personnage qui depuis le tout début s'impose à nous parce qu'il est le plus grand de tous les leaders, incontestablement, en tout cas probablement. Mais il faut dire les choses, nous l'avons un petit peu mis de côté, nous avons tardé à l'évoquer, cher Gérald, parce que disons-le tout net, il nous faisait un petit peu peur.
C'est un personnage immense, donc savoir comment le traiter c'est déjà un sujet. Et puis, c'est un personnage, on va dire, contrasté.
Voilà.
Parce que il y a quelque chose de grandiose en lui, et puis il y a aussi des choses qui sont un petit peu moins belles. Et puis, Franck, nous allons traiter un deuxième personnage comme d'habitude, sur le thème d'ailleurs au passage de l'omniprésence, mais on va traiter ses rapports avec Chateaubriand.
Bien sûr, Chateaubriand qui aura été d'une certaine manière à la fois le grand critique et peut-être d'une certaine manière celui qui l'a rendu immortel.
Grand Leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Kersenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
Je rentre tout juste de Sainte-Hélène, où nous sommes allés avec la Fondation Napoléon célébrer le centenaire du mémorial. Le mémorial de Sainte-Hélène, écrit par Lascaz sous la dictée de Napoléon, en tout cas sous l'inspiration de l'ex-empereur. Cela fait des heures et des heures en plein océan à disséquer la saga consulaire et impériale et à discuter les différents aspects de la vie de Napoléon. Général à 24 ans, général en chef à 26, consul à 30, puis consul à vie, empereur à 35 ans et qui aura transformé le monde en moins d'un demi-siècle, qui aura clos la Révolution, réformé en profondeur toute l'organisation de l'État, battu presque toutes les armées d'Europe, séparément ou ensemble, mis en place le Code civil, le Concordat, le régime plébiscitaire. Bref, fascinant personnage, haï par les uns, adulé par les autres et qui, d'une certaine façon, ne peut laisser personne indifférent. Il y a ceux qui sont dans la dévotion de Napoléon. Je cite le très célèbre poème de Victor Hugo, bien sûr. « J'avais 7 ans, je vis passer Napoléon. Et ce qui me frappa dans ma sainte terreur, même après que le cri sur sa route élevée se fût évanoui dans ma jeune mémoire, ce fut de voir, parmi ses fanfares de gloire, dans le bruit qu'il faisait, cet homme souverain passé, muet et grave, ainsi qu'un dieu d'airain. » Et puis, il y a ceux qui le critiquent.
Ah,
ça, c'est magnifique.
Magnifique.
Hein, ouais. De toute façon, Victor Hugo, ça fait toujours de l'effet, comme on dit. Après, on peut être ou non d'accord. Parmi ceux qui l'ont beaucoup critiqué, il y en a d'innombrables, mais je citerai Léon Blois, le romancier catholique Léon Blois, qui dit « Étonnante médiocrité intellectuelle de Napoléon. Ce grand homme est le père de tous les lieux communs du XIXe siècle, et plus ils sont abjects, plus leur extraction est sensible. » Bon, là, ça s'appelle... condamnation totale et sans appel. Et puis il y a ceux qui, connaissant bien Napoléon, ne peuvent s'empêcher de le critiquer. Je pense à Léon Tolstoï notamment, hein, l'auteur de Guerre et Paix, qui a fait d'une certaine façon de Napoléon le héros invisible de son plus grand roman et qui dit « Dans sa conception que le bien était non ce qui était bien, mais ce qui lui passait par la tête, Napoléon écrivit ce soir-là à Kutuzov les premiers mots qui lui vinrent à l'esprit. » Oui, je crois qu'on peut donner raison à Tolstoï, cher Gérald. On peut dire que pour Napoléon, tout ce qu'il pensait était bien. Il était toujours d'accord avec lui-même, en fait.
Bon, ça, c'est sûr que c'était un homme qui avait beaucoup de convictions et il les partageait avec lui-même, on va dire. Alors, moi, je voudrais parler, en fait, d'une notion qu'on avait brièvement évoquée dans un épisode précédent. C'est la notion de l'ascenseur social.
Oui.
L'ascenseur social qui a été popularisé par l'économiste Albert Hirschman. Alors, Napoléon, de mon point de vue, est le plus bel exemple qui soit. Comment ce petit caporal corse a-t-il réussi le tour de force de se retrouver pendant plus de 15 ans le maître du monde? Je dis le maître du monde parce que l'Europe à l'époque
était un peu le monde.
Comme Alexandre le Grand le fut, on se rappelle de notre premier épisode, plus de 2 millénaires plus tôt, il a été le maître du monde également dans une autre région du monde. Et quelle fut finalement la véritable ambition de Napoléon? Alors, Napoléon, c'est d'abord l'histoire d'une ascension fascinante. Une enfance modeste, il se distingue très vite par son intelligence et notamment pour ses qualités dans le domaine du calcul. Puis après, je ne vais pas te paraphraser, mais juste pour le citer, pour en saisir les conclusions qu'on peut en tirer sur le plan du leadership, il a une ascension incroyable. Comme tu le disais, général de brigade après le siège de Toulon, général en chef de l'armée d'Italie, premier consul après le coup d'État, empereur des Français, il se couronne lui-même d'ailleurs, au passage c'est plus simple. Le tout en réformant la France de fond en comble, c'est quand même unique dans les annales. Il n'y a pas d'autre cas et c'est évidemment incontestablement un immense leader. Alors, après avoir parlé de l'ascenseur social, eh bien me vient cette idée du self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, l'homme qui a gravi les échelons grâce à, que pourrions-nous dire, son talent, son génie
même, oui.
Le courage, la détermination, une autorité naturelle en réalité. Hein. Et selon la définition la plus courte que je donnais du leadership, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Alors derrière cette notion de self-made man, qui est quand même assez admirable, hein, eh bien il y a des fragilités chez Napoléon, et puis il y a aussi des errances. Alors fragilité, ben, je voudrais en citer deux, sa faiblesse pour les femmes, et en particulier pour Joséphine, on connaît les lettres enflammées qu'ils s'échangent, et surtout les siennes d'ailleurs.
Alors, les lettres enflammées, soyons très honnêtes, hein, ça dure 3 semaines, c'est au tout début de leur liaison, et c'est parce qu'ils viennent de se marier avant que Napoléon ne soit obligé de quitter la France pour l'Italie. Et donc,
pour sa campagne d'Italie.
Voilà, il est fou amoureux d'elle, il est séparé, donc il lui envoie ces lettres incroyables. Ça n'aura plus lieu par la suite.
Et ça n'est pas donc, comme le laisse entendre le film qui vient de sortir, qu'il avait une dépendance. Il n'y avait pas de dépendance.
Pas du tout.
Il peut aussi perdre ses moyens, on l'a vu lors du coup d'état du 18 Brumaire, à un moment donné il est pris de court et puis il va être aidé, mais il est pris de court, donc ça peut lui arriver.
Et il se met à bafouiller et à reculer quand même.
Et à fuir même.
À fuir, oui.
Il sort de la salle et il y re-rentre avec les soldats. Il y a aussi les errances, et les errances sont assez inquiétantes quand même par moments, j'en cite quelques-unes. Le 5 octobre 1795, Barras demande à Bonaparte, à l'époque Bonaparte, de réprimer une insurrection royaliste contre la Convention nationale. S'ensuit une canonnade. Pourquoi ? Parce que Napoléon a fait venir des canons.
Il a mis des pièces d'artillerie en ligne, en fait.
Exactement, par son futur beau-frère, d'ailleurs, au passage. Et il va mitrailler en faisant un massacre. Hein. Il tue plus de 300 personnes.
Ce qu'on appelle le massacre de Vendémiaire.
Oui. Exactement. Deuxième exemple, quand il prend Jaffa, il fait 3000 prisonniers, mais il faut retourner en Égypte. Il ne sait pas trop quoi faire des prisonniers, il va les faire exécuter. C'est pas très glorieux et c'est pas très beau.
Surtout qu'en plus, il va par la suite laisser tomber l'armée d'Égypte, comme il avait laissé tomber les bataillons de Syrie d'ailleurs.
Exactement, il a répliqué, on va dire. Hein. Troisième exemple, l'exécution, alors ça on va y revenir avec Chateaubriand, l'exécution du duc d'Enghien, qui sincèrement n'était pas responsable de ces potentiels attentats contre lui.
Exécution, ce sont les bonapartistes qui parlent d'exécution, parce que dans la pratique, je crois qu'on doit pouvoir dire en étant juste qu'il s'agit d'un assassinat pur et simple.
C'est ce que je pense, et j'y reviendrai tout à l'heure avec Chateaubriand. Chateaubriand, en tout cas, le décrivait comme ça, c'est un assassinat. Il fait rétablir l'esclavage, il faut bien le dire, parce que l'esclavage a été aboli par la Révolution au nom des droits de l'homme et du citoyen, il les rétablit. On sait aujourd'hui que c'était pour des raisons économiques, et je peux dire presque uniquement économique, mais peu importe, il rétablit l'esclavage quand même, sans oublier les pertes monumentales humaines de toutes ces guerres. Donc ça, c'est quand même les taches un peu noires de son mandat. Alors, Napoléon Bonaparte est certainement un grand capitaine, comme l'ont été Alexandre le Grand, Jules César, Charlemagne. Il s'inscrivait dans la suite de Charlemagne.
C'est un immense conquérant.
Mais il a un mérite supplémentaire par rapport à ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est qu'il n'est pas héritier.
Non seulement il n'est pas héritier, mais il est tout seul du début à la fin.
À la fin.
Et même lorsqu'il va réintroduire le principe dynastique, fonder sa propre dynastie, hein, se faire couronner et avoir un prince héritier avec sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise, même à ce moment-là, on le voit seul. Il y a un petit exemple qui permet d'en juger d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la conspiration du général Mallet, qui a lieu en octobre 1812, au moment où Napoléon est encore en Russie, on est au tout début de la retraite de Russie. À Paris a lieu un coup d'État monté par un type qui est évadé d'un asile psychiatrique, quand même, ça donne une idée. Mais le coup d'État, incroyable mais vrai, va réussir pendant 24 heures, évidemment, ça ne peut pas durer très longtemps, mais pendant 24 heures, le général Mallet va prendre possession des institutions françaises et personne à l'époque, quand on a annoncé, à tort bien sûr, mais quand on a annoncé la mort de Napoléon, personne n'a eu l'idée de se mettre sous l'égide de son fils, de l'Aiglon. On a oublié Napoléon II quand même, ça donne une idée de la solitude et de la fragilité de ce qu'a pu construire cet homme-là. Alors, Tu as été déjà assez critique, je m'apprêtais à l'être aussi, mais alors du coup ça va m'obliger à être un peu moins sévère que je n'avais l'intention de l'être, parce que
je suis nuancé.
Mais vraiment critique, et je pense qu'il faut l'être. Il y a un homme qui est un de mes illustres devanciers, dans les pattes duquel j'essaie parfois de m'inscrire, c'est Henri Guillemin. Henri Guillemin était le grand conteur d'histoire de la télévision suisse romande dans les années 60, au début des années 70. Il faisait de longues conférences, il a fait notamment une conférence en 6 heures sur Napoléon, qu'il faut absolument écouter, elle est tout à fait disponible en chaîne YouTube. Et dans cette conférence, alors là pour le coup c'est un assassinat, il ne reconnaît rien de bien à Napoléon, il le démolit mais dans des proportions folles. Et selon lui, il dit que c'est un affairiste, ça c'est pas faux, que c'est un lâche, et il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment au moment extraordinaire de son départ pour l'île d'Elbe, où il va non seulement jusqu'à se déguiser en domestique, mais jusqu'à hurler « mort à Napoléon » pour pouvoir passer dans la foule. C'est quand même pas mal dans le genre. Le type tenait vraiment à sa vie quand même, je crois qu'on peut le dire. Et puis, il le décrit aussi d'abord et avant tout comme un égocentrique, incapable de percevoir quoi que ce soit d'autre que lui-même, que ses propres impulsions, ses propres désirs, ses propres envies. Enfin, tout ça, tu vas peut-être d'ailleurs en reparler. Cet égocentrisme est essentiel. Il est sans doute lié à la manière dont sa mère l'a élevé de façon très différente de ses frères et sœurs. Pourquoi est-ce que cet enfant-là a bénéficié, des rayons d'amour maternel à ce point? Peut-être parce que, lui en était convaincu, en tout cas Napoléon était convaincu qu'il n'était pas le fils de son père, Charles Bonaparte, mais qu'il était le fils du comte général de Marbeuf, qui était gouverneur de la Corse à l'époque au nom de Louis XV. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Je pense que non, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi il a bénéficié de ce traitement un peu particulier. Alors, ce qu'on peut dire, pour essayer, parce qu'il y aurait tant à dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il bénéficie d'une intelligence absolument hors du commun, mais que cette intelligence n'est pas une intelligence théorique, du tout d'ailleurs, car il n'y a pas une seule idée qui soit sortie jamais de l'esprit de Napoléon, c'est incroyable. Il n'y a pas un seul beau texte qu'il ait écrit, il n'y a pas une seule conception dans un domaine ou un autre qu'il ait littéralement créé à la manière d'un poète. En revanche, c'est la plus fantastique intelligence d'application de tous les temps. C'est-à-dire que son intelligence est une intelligence intensément pratique, qui a des traductions concrètes au quotidien dans tous les domaines. Et de ce point de vue, c'est une espèce de fantastique organisateur ou réorganisateur. Intelligence appliquée, je vous en donne un petit exemple, parce que j'ai eu cette chance en tant que chercheur de tomber un jour sur des documents de l'architecte Gondouin, qui avait été chargé de refaire toute la partie côté ville du château de Versailles, à l'usage d'ailleurs de l'Aiglon, puisque à l'époque Napoléon voulait donner le château de Versailles à son fils au moment de la naissance du roi de Rome. Et Gondouin propose des travaux à l'empereur, et il y avait en marge le commentaire de l'empereur. Extraordinaire! J'avoue que moi, ça m'a donné le vertige, d'une justesse, d'une lucidité, d'une efficacité et d'une avance sur son temps complètement phénoménale. Et là, quand on tombe sur des documents comme ça, on comprend qui était Napoléon. C'était quelqu'un qui voyait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que tous ceux qui vivait à la même époque que lui. Il y en a peut-être un seul qui a eu la même puissance de vision, c'était justement Chateaubriand, dont nous allons parler dans un instant. Et pour finir, ce qu'il y a de fascinant avec cette intelligence d'application, c'est que c'est une intelligence omnisciente. Il n'y a pas de domaine de l'activité humaine qui n'ait intéressé personnellement Napoléon, qui était très bon en physique hydraulique, qui s'y connaissait en sculpture sur marbre, qui s'y connaissait dans tous les domaines. Et tout l'intéresse. Et il a son avis, bon ou mauvais d'ailleurs, mais il a un avis sur tout. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il a cette capacité, cet avis, à le transformer en ordre et en décision. C'est en ça sans doute qu'il est un leader, c'est que c'est une machine à donner des ordres. Combien de dizaines d'ordres par jour? Extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et en fait, à ta question de tout à l'heure, je pense que très tôt, très jeune, on pouvait déceler chez Napoléon, chez Bonaparte, on pouvait déceler.
Oui, alors on dit, pour ceux qui ne seraient pas très au fait, on appelle Napoléon Bonaparte, on l'appelle Bonaparte jusqu'à sa proclamation empereur en mai 1804, puis ensuite on dit Napoléon.
Napoléon Ier en réalité. C'est vrai que dès son plus jeune âge, on voyait bien que c'était pas un enfant comme les autres, qu'il était surdoué. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, même dans sa propre famille, on a compris assez tôt que son destin serait fabuleux. En 15 ans, Napoléon va transformer la France. Ça, c'est une réalité. Il fait feu de tout bois, c'est la meilleure expression parce que il perd pas son énergie, il est tout le temps en action. On peut dire que son implication et son ambition, parce qu'il est très ambitieux, vont contribuer à donner de lui l'impression d'omniprésence, puisque c'est le thème de notre épisode. D'autant plus qu'il est, comme je le disais, toujours en mouvement, et ça c'est le propre des leaders. Alors Napoléon porte un double projet. On a eu une discussion, Franck, sur est-ce que Napoléon avait une vision? Peut-être que tu es plus sévère que moi là-dessus. Moi, je pense qu'il portait quand même une vision, mais là, je l'ai appelé projet. Construire un empire français très puissant et puis redonner des couleurs à l'empire colonial. Alors, l'empire colonial, ça a été un échec total. Ça, on peut le dire, ça n'a pas fonctionné. Mais il voulait un nouvel équilibre en Europe. Et pour ça, il savait qu'il fallait assurer une forme de stabilité en France, suite évidemment au bouleversement de la Révolution française. Le message qu'il envoie à tous les Européens, c'est dire non, ce n'est plus Robespierre qui est aux commandes de la France, c'est moi. Et ce qu'il espérait, c'est pouvoir reprendre des dialogues d'égal à égal avec tous les souverains européens, tous ses homologues. Ça n'a pas vraiment été le cas, et on peut dire que ça va vraiment le marquer. Ça va être un élément assez important pour la suite. Alors, pourquoi omniprésence ? Ben parce que, comme on l'a dit, il était sur tous les fronts. C'est d'abord un stratège militaire hors pair. Pour les militaires, il applique quelque chose qui est bien connu, qui s'appelle le système divisionnaire. Or, ça consiste en quoi ? Ça consiste à avoir des divisions plus légères en nombre d'hommes, gérer une espèce de flou tactique permanent, et puis évidemment la vitesse de déplacement.
C'est ça.
Et c'est là où il était
très fort. La rapidité
et
la surprise.
Ben bien sûr, la technique de l'encerclement, etc., qui a bouleversé bon nombre d'armées qui s'opposaient à lui. D'ailleurs, au passage, la campagne d'Italie, notamment, et la bataille d'Austerlitz, sont toujours étudiées en école de guerre aujourd'hui. C'est dire que ça a été des événements assez marquants.
Oui, c'est un homme qui ne possède pas les inhibitions propres habituellement au génie militaire. Souvent, les très grands stratèges étant des militaires, ils ont des inhibitions. Napoléon n'a pas d'inhibition. Donc, il fait des choses que normalement, on ne fait pas et qui gagnent, bien sûr.
Et il gagne. Ensuite, il laisse un véritable héritage politique. Alors, c'est un grand réformateur. On ne va pas reciter tout, mais le code Napoléon est quand même un élément extrêmement important. Il n'a été revu que dans les années 60. 1960, je parle.
Enfin, il a été revu régulièrement, mais il a été remanié en profondeur.
En 60, donc c'est très très tard, on va dire. Alors, il érige surtout cette idée de la méritocratie comme un droit. Ça, c'est un élément en leadership qui est fondamental. L'ancien régime avait cette formule « à chacun selon sa naissance ». La Révolution disait « l'égalité ou la mort ». Et lui, Napoléon, il dit « à chacun selon ses mérites ». C'est un changement considérable. Et il écrit « ma véritable gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce qui ne s'effacera pas, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Ce qu'il écrivait. C'est intéressant. Il va être aussi l'homme de la réconciliation avec l'Église. Ça, on va en reparler aussi, parce que quand on va parler de Chateaubriand, on va évidemment en reparler. Il signe le Concordat en 1801, et c'est le rétablissement des relations avec le Saint-Siège. Il va aussi moderniser l'économie. Il est sur tous les fronts. Il va moderniser l'économie en faisant la promotion des infrastructures, en créant la Banque de France, la Cour des comptes, il va réformer le système fiscal. Honnêtement, il est partout. Il s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans la continuité de Charlemagne. Ce n'est pas pour rien qu'il fait ce voyage symbolique à Aix-la-Chapelle. Il fut indiscutablement un leader omniprésent, donc le titre de notre épisode n'est pas venu par hasard, mais on peut le dire, il est d'une puissance inégalée encore à ce jour.
Une chose qu'on ne dit pas toujours de Napoléon, c'est qu'il a été écrivain, même si ce n'était pas un très bon écrivain, disons les choses, mais c'était une sorte de romancier pré-romantique assez étrange qui, lorsqu'il est adolescent, est convaincu qu'il va devenir...
En tout cas, il avait la passion de la littérature.
Ah oui, une vraie passion de la littérature, avec un modèle surtout, qui pour lui était très au-dessus de tous les autres, c'était Corneille, le grand dramaturge Pierre Corneille, mais au-delà de Corneille, il disait tout ce qui lui tombait sous la main. Il avait d'ailleurs une bibliothèque de voyage dont on dit qu'elle diminuait à mesure qu'on avançait dans les campagnes militaires, parce que quand un livre ne lui plaisait pas, il ouvrait simplement la fenêtre du carrosse et il le jetait par la fenêtre. Et
il partait avec 40 cartons de livres.
Exactement, ouais. Oui, mais à l'arrivée, il n'en avait plus que deux ou trois. Bref, cette passion pour la littérature va le faire s'intéresser forcément au plus grand écrivain de sa génération. Ils sont nés à peu près en même temps, au même moment en tout cas. C'est cet homme qui sera élu à l'Académie française en 1811, c'est-à-dire au moment de l'apogée de Napoléon, au moment de la naissance du roi de Rome. Sauf que le très grand écrivain en question se trouve, hélas pour Napoléon, dans le camp d'en face, si je puis dire, et c'est le vicomte de Chateaubriand, qui est un breton, fils d'un aristocrate qui d'ailleurs avait fait fortune dans la traite des Noirs, ce qu'on oublie parfois, qui a émigré pendant la Révolution, François René, hein, je parle bien de Chateaubriand lui-même, qui a émigré d'abord aux États-Unis, il en tirera René Atala, et puis en Grande-Bretagne bien sûr, proche des milieux émigrés, proche des princes, ce qu'on appelait les princes à l'époque, c'est le comte de Provence et le comte d'Artois, les frères de Louis XVI, qui deviendront respectivement les rois Louis XVIII et Charles X. Et Chateaubriand sera l'ambassadeur de Louis XVIII avant même de devenir, de 1822 à 1824, son ministre des Affaires étrangères. Auteur du génie du christianisme, auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, et une grande partie de la deuxième moitié des Mémoires d'Outre-Tombe est consacrée à Napoléon. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que Chateaubriand déteste Napoléon, qu'il le méprise, qu'il le ridiculise à chaque fois qu'il le peut, mais que dans la pratique, il ne cesse d'écrire sur lui comme s'il était une sorte de boussole ou plus exactement un aimant dont il n'arrivait pas à se défaire. C'est étrange. Est-ce que la réciproque était vraie? Je ne pense pas, parce que Napoléon était intéressé par le grand talent de Chateaubriand, mais pas du tout fasciné par l'homme, en vérité.
Alors en fait, l'écriture, on le sent dans ce que tu dis, Franck, l'écriture était l'arme, évidemment, de Chateaubriand, et surtout face à cet empereur. Alors, avec une petite nuance, parce que c'est face à cet empereur qu'il admire et qu'il déteste à la fois.
À la fois.
Et ça a changé, on va le voir dans mon point un peu plus tard. C'est une relation très particulière qui va s'installer au fil du temps entre ces deux hommes, entre ces deux géants d'une certaine façon. N'oublions pas que Napoléon règne, comme tu le disais, sur un pays qui est celui des écrivains. Et que lui-même voulait être un écrivain, c'était un grand lecteur. Donc en fait, moi je résume ça de la façon suivante. Napoléon était un homme d'action pétri de littérature, quand Chateaubriand était un homme de lettres attiré par l'action.
Voilà, exactement.
Et c'est la bonne synthèse de ces deux hommes, de ces deux génies. Ils auront l'un et l'autre un impact sur les autres, à leur époque, et aussi sur le temps long. Et ça, en leadership, ça veut dire quelque chose, hein. Donc, Napoléon change à jamais la physionomie de l'Europe, ça, on est certain de la chose, et puis Chateaubriand va marquer encore notre temps actuel par ses pensées, et puis évidemment par ses écrits. Alors, je voudrais parler de points. D'abord, le point de convergence. Le point de convergence entre les deux, eh bien, il va se faire avec la sortie de son livre « Le génie du christianisme » qui coïncide avec ce que je laissais entendre tout à l'heure, qui coïncide avec la signature du concordat entre la papauté
et le régime consulaire à l'époque.
Exactement, et Bonaparte. Bonaparte dira d'ailleurs qu'il avait ce livre sur sa table de chevet, rien de moins, et Chateaubriand va lui dédier la seconde édition. Alors Napoléon disait d'ailleurs, une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole, lui-même qui n'accordait pas vraiment d'importance à la religion, si ce n'est qu'il disait, les États, les peuples ont besoin de religion.
Oui, c'était une dimension politique et sociale pour lui.
Ce qu'on ne sait pas, qui est très, très amusant, c'est que quand il était en Égypte, il s'est intéressé à la religion musulmane, il a voulu même se convertir à la religion musulmane, oui, et convertir toute son armée. Bon, il a renoncé à ce projet, mais c'est dire que pour lui, c'était plus un instrument qu'autre chose. Grâce à cette publication, Le génie du christianisme, eh bien, les deux hommes vont se rencontrer, très brièvement d'ailleurs, à l'hôtel de Brienne. Chateaubriand a été, à ce moment-là, ébloui par le premier consul. C'est l'apogée de leur relation, avant de sombrer dans l'agonie, on peut le dire comme ça. Et puis, le deuxième point, eh bien, c'est le point de rupture. Car ce qu'il y a eu un point de rupture. Après le point de convergence, il y a un point de rupture. Et le point de rupture, c'est l'exécution du duc d'Enghien, dont je parlais tout à l'heure. Chateaubriand voit ça comme un assassinat sordide, un procès sommaire, on le conduit dans les fosses, sa tombe est déjà creusée.
Oui.
Enfin, autant dire que c'est pas très glorieux non plus. Et de là, eh bien, évidemment, la vision qu'il avait de l'empereur va totalement changer.
Ce duc d'Enghien, il faut préciser qu'il était le fils du prince de Condé. On dit duc, c'est un titre de courtoisie, mais il est prince, hein, bien entendu, prince de la maison de France.
Exactement.
Et qu'il était l'espoir des royalistes, en fait.
C'était l'espoir des royalistes. C'est pour ça que tout le monde a réagi. Et dès lors, eh bien, Chateaubriand va dépeindre le Napoléon comme l'ennemi de la liberté, un tyran. Il le compare même à Néron dans certains écrits, un despote, un faux grand homme, dira-t-il. Ouais. Et dans cette histoire croisée, nous avons là une situation qui arrive très souvent en leadership, y compris de nos jours d'ailleurs, en réalité, Franck. On a deux génies, deux personnalités fortes, deux grandes statures, toutes deux avec un ego surdimensionné, toutes deux cherchant la gloire indiscutablement. Au début, ils ne voient que le talent de l'autre, et puis après, presque mécaniquement, eh bien, à un moment donné, c'est le décrochage. Chateaubriand est sans doute l'un des plus grands écrivains français, mais ce fut pas un grand homme politique.
Ah ben non, il a même tout raté sur ce plan.
Je pense, en voulant sortir de son précaré, qui était le monde de l'art et de l'écriture, que ça a commencé à se ternir entre les deux hommes, un peu comme Voltaire et Frédéric de Prusse, on s'en souvient. Ils se sont aimés, ils se sont admirés, et puis après, ça a été plus compliqué. Eh bien, on peut dire que nos deux impétrants du jour n'auront pas toujours su se rencontrer.
Avec, en plus, une différence de taille, c'est que Voltaire, comme Frédéric, était favorable au despotisme éclairé.
Oui.
Ils partageaient les mêmes idées, alors qu'évidemment, Napoléon, qu'on le veuille ou non, reste le défenseur des idées de 1789 et que Chateaubriand est très fidèle au principe de la monarchie absolue catholique d'avant la Révolution. Donc, ça peut pas marcher, si
oui,
je
d'ailleurs,
peux dire.
Il lorgne beaucoup sur l'Angleterre, hein, oui, comme modèle
voilà,
de référence.
Il voudrait, c'est-à-dire qu'il se croit extrêmement moderne, Chateaubriand, en voulant instaurer en France un régime à l'anglaise. Peut-être n'avait-il pas entièrement tort, mais ça, c'est un autre sujet. L'empereur se mêlait de toutes choses, écrit-il par exemple, hein, on pourrait citer, mais alors des dizaines et des dizaines de paragraphes, tous sont plus brillants, tous sont mieux écrits. Son intellect ne se reposait jamais. Il avait une espèce d'agitation perpétuelle d'idées. Dans l'impétuosité de sa nature, au lieu d'un train franc et continu, il s'avançait par bond et haut le corps. Il se jetait sur l'univers et lui donnait des saccades. Il n'en voulait point de cet univers s'il n'était obligé de l'attendre. Être incompréhensible, qui trouvait le secret d'abaisser en les dédaignant ses plus dominantes actions et qui élevait jusqu'à sa hauteur ses actions les moins élevées. Je relis cette phrase parce que alors ça c'est du Chateaubriand, j'allais dire dans le texte. Il parle de celui auquel il consacre des centaines de pages en le décrivant comme un être incompréhensible qui trouvait le secret d'abaisser en les dédaignant ses plus dominantes actions et qui élevait jusqu'à sa hauteur ses actions les moins élevées. D'une certaine façon, c'est dans ce paradoxe-là que réside la fascination essentielle de Chateaubriand pour Napoléon. Alors, c'est vrai, je reviens sur cet assassinat du duc d'Enghien, c'est une rupture incontestable. Mmh. C'est une rupture avec Chateaubriand, c'est une rupture avec tout le monde ancien et avec, bien sûr, les royalistes, mais c'est une rupture aussi de Bonaparte avec lui-même. Car il ne sera plus jamais le même. Il va, de ce moment-là, changé de nature, il était le général de la Révolution, il était le consul qui avait réadministré, relancé une France en maintenant les biens, très importants ça, les biens nationaux, c'est-à-dire qu'il avait rassuré la bourgeoisie, et voilà que du jour au lendemain, il devient un souverain parmi les souverains et qu'il finira même par épouser la nièce de Marie-Antoinette. Ça ne s'invente pas quand même. Hein. Il appelait Louis XVI mon oncle Napoléon, ce qui était un peu ridicule entre nous. Alors, il aura fait ça toute sa vie. Il l'aura fait en étant d'abord un anti-français farouche. Les textes qu'il écrit à l'époque de la Corse contre la France sont d'une violence inouïe. Et ensuite, il deviendra l'empereur des Français. Et il a été robespierriste, très acharné pendant la Terreur, soutenu personnellement par les deux frères Robespierre. Et il deviendra finalement plus qu'un roi, un empereur. Défenseur des principes de la Révolution qu'il aura exporté dans l'ensemble d'une Europe immense, étendue presque à l'échelle du continent, et en même temps tyran à Paris, instituant un régime extrêmement ordonné autour de sa personne et de ses désirs. C'est le paradoxe fait homme, finalement, Napoléon, à condition qu'il fût un homme, d'ailleurs. Oui, je crois qu'on doit pouvoir le dire.
Alors, je continue sur les points, puisque je parlais tout à l'heure du point de rupture entre l'écrivain Chateaubriand et l'empereur. Eh bien, je vais parler maintenant de point de bascule. Alors, le résultat est le même, en fait, parce qu'il y a un avant et un après. Mais comme tu le disais, le point de rupture entre Chateaubriand et l'empereur, du fait de l'assassinat, on va dire, du duc d'Enghien, n'a pas été neutre pour Napoléon. Alors, même les plus grands esprits, les plus grands leaders, les plus grands conquérants, peuvent atteindre à un moment donné une sorte de seuil d'incompétence. Ils perdent pied. Alors, c'est un manque de lucidité, un manque d'humilité, un sentiment parfois de grandiosité qui les amène à ne pas écouter leur entourage, excès de pouvoir, vertige, parfois engendré par un succès trop continu. C'est vraiment le cas avec Napoléon, on peut le dire. L'opposé, en réalité, de ce qu'on appelle la modération et la tempérance du caractère, qui passe par quoi ? Ben, qui passe par une très bonne connaissance de soi et de ses limites. Mais Napoléon pensait-il seulement avoir des limites ? Je pense qu'il ne pensait en avoir aucune. Je parle maintenant du point de bascule ou de retournement, et pour moi, ce point se situe en 1812, très précisément. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il décide d'attaquer la Russie. En 1811, nous le savons, Franck, il a tout.
Oui, il est à l'apogée.
Il est à l'apogée. Il vient de se marier avec l'archiduchesse d'Autriche, il a un héritier, il domine l'Europe, il a fait plein de réformes, il est à l'apogée, et là, tout d'un coup, il décide d'attaquer la Russie. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que il domine l'Europe et il a une cible, c'est l'Angleterre.
C'est une obsession même.
C'est une obsession. On sait où mènent les obsessions, la plupart du temps. Et donc, il décide de faire quelque chose qui, finalement, est d'une grande modernité. Il décide de faire un blocus continental pour asphyxier l'Angleterre. Sauf que...
Blocus continental, c'est-à-dire que l'Angleterre ne peut exporter aucun de ses produits dans aucun des pays
du continent. Et aucun produit ne peut arriver en Angleterre non plus. Donc, les Autrichiens respectent quand même assez moyennement, mais alors les Russes, encore moins. Là, Napoléon furieux décide d'attaquer la Russie, sur cette base-là. Alors, il a en plus, je pense, extrêmement sous-estimé la force des Russes. Il pensait que ses tactiques militaires feraient...
Il avait surtout sous-estimé l'immensité d'un territoire qui était conquis par l'hiver tous les ans.
Exactement. Et surtout, il pensait que ce serait une bataille vite réglée. En réalité, on connaît la suite, parce que les Russes, eh bien, vont jouer la stratégie de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans une nouvelle ville, elle était déserte, mais il n'y avait rien à y trouver. Et puis, les conditions climatiques qu'il a totalement sous-estimées. Il arrive dans Moscou... Alors, il rentre dans Moscou assez facilement, finalement. Il propose un pacte de reddition pour Alexandre, qui non seulement ne l'accepte pas, mais ne lui répond même pas. Il gagne du temps. Évidemment, l'hiver arrive. Et là, grande erreur de Napoléon, il décide de battre retraite, alors qu'il aurait sans doute dû passer tout l'hiver à Moscou. Et c'est là le point de bascule. Et c'est un point de bascule terrible, puisque l'armée française va littéralement, on peut le dire, sombrer. Et Napoléon va sombrer avec elle. C'est vraiment le point de bascule. Alors Napoléon va avoir une seconde chance, une possibilité finalement de changer le cours de l'histoire. On est en juin 1813. Napoléon rencontre Clemens Wenzel von Metternich. Alors d'un côté, on a un soldat, un enfant de la Révolution, un stratège militaire, un réformateur, c'est Napoléon bien sûr. De l'autre côté, on a un diplomate autrichien de haut vol, très habile négociateur. Il y a du respect entre les deux hommes. Metternich écrit dans ses mémoires « L'homme le plus étonnant qui soit venu au monde » en parlant de Napoléon. Et Napoléon voyait en Metternich un véritable homme d'État. Alors cette rencontre se déroule à un moment clé pour l'Empire. C'est un moment où l'Empire peut en réalité basculer. Et Metternich propose d'aller vers une paix raisonnable et négociée, avec en arrière-pensée l'idée de reconstruire le Saint-Empire romain germanique. Et Napoléon, lui, ce qu'il veut, c'est juste que l'Autriche ne bascule pas dans le mauvais camp. Il n'a pas du tout l'intention d'arrêter son action. Il aurait dû. Certainement que là, il avait une chance de stopper les choses, il aurait dû calmer le jeu, mais par aveuglement ou manque d'humilité, il reste figé sur ses convictions. C'est quoi ses convictions ? Ben, c'est l'idée qu'il est tout puissant, qu'il est intouchable, et en fait le propre des leaders narcissiques, car il l'est évidemment, c'est de se croire justement invulnérable. Et je voudrais terminer par une citation de quelqu'un que nous aimons tous les deux, je crois Franck, Jean d'Ormesson, qui dit... Et inutile de vouloir lui faire entendre raison, il parle de l'empereur bien sûr, il se précipite vers son propre destin. Il faut dire qu'à la fin, il reconquerra la défaite, l'emprisonnement et la mort, il va les transformer en légende, c'est son dernier triomphe.
Classique.